RCF. Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce vendredi 18h10, 19h50 pour vous accompagner. C'est le magazine régional sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes. Dans une semaine, vous le savez, spéciale pour nous sur les ondes de RCF, puisque c'est toujours le radiodon. On entendra le témoignage de Bruno, auditeur et donateur, qui vous expliquera les bienfaits d'écouter RCF et aussi pourquoi c'est important de nous soutenir. Évidemment, le vendredi, il y a les habitués, notamment Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi président de la Conférence des évêques de France. Il posera son regard sur l'actualité diocésaine et sur l'actualité de l'Église en France et dans le monde. La chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen, ça aussi c'est une des habitudes du vendredi. Guerre Israël-Palestine, la victoire du Hamas. Le professeur Cohen vous donnera son point de vue d'ici quelques instants. Parmi les rendez-vous, là aussi où on ne change pas les traditions, c'est un maire qui nous parle. Ça sera dans une dizaine de minutes. Le maire de Raillicourt, Jacques Vincent, sera au micro de Jean-Pierre Benoît. Et puis on parlera cirque avec la directrice communication du CNAC à Châlons-en-Champagne pour présenter le spectacle de fin d'études. Rendez-vous du 29 novembre au 10 décembre. Claire Rossi donc sera là avec Christopher Fausten. Voilà pour le sommaire de cette émission et c'est sans surprise que l'on commence ce vendredi par la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen avec nous par téléphone. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Et on va faire une photographie de la guerre Israël-Palestine. Où en est-on au moment où l'on parle aujourd'hui ?
Eh bien, tout le monde parle de l'accord éventuel sur les otages, ou du moins sur une toute petite partie des otages. Certains la considérant comme une victoire du Hamas, mais c'est pas ça la victoire du Hamas. Le Hamas a déjà gagné la guerre sur plusieurs plans. Alors qu'il avait commencé par quelque chose de catastrophique pour lui, c'est-à-dire de démasquer, d'une part, qu'il voulait renvoyer les Juifs à la mer ou les exterminer, alors, au contraire d'une opération militaire limitée qui était réussie, le Hamas se retrouvait avec un handicap, j'allais dire, d'opinion publique internationale, en démasquant sa nature catastrophique. Depuis, il a ramé à remonter la pente. D'une part, parce que il y a une guerre tiède en Cisjordanie, à l'initiative des colons qui sont les symétriques du Hamas chez les Israéliens et de la part du Hezbollah à la frontière nord, dont les Israéliens ont dû évacuer 120 000 personnes sur un tout petit pays, c'est quand même significatif. Mais la principale victoire du Hamas, elle n'est pas là. Les Israéliens sont partis à faire la guerre, comme les Américains l'ont fait en Irak, à Fallujah, ou à Rafah ou à Mossoul, à affronter une armée retranchée dans une ville dont les civils soit ne peuvent pas sortir et sont tués avec, soit arrivent à se sauver. C'est une situation qui aurait pu être efficace vis-à-vis du Hezbollah dans le nord. Parce que là, il y a une armée aguerrie en Syrie. Il contrôle, contre d'autres factions, le Liban. Et leur faire la guerre, j'allais dire conventionnelle, pourrait être très efficace en détruisant leur potentiel. Les autres fractions libanaises, si le Hezbollah était affaibli par cette guerre, se dépêcheraient de venir terminer de les liquider pour leur faire passer ce qu'ils ont subi pendant 20 ans sous la domination du Hezbollah au Liban. Mais à Gaza, la situation est très différente. Le Hamas n'a pas d'armée. Ça peut paraître paradoxal, mais le Hamas n'a pas d'armée. Il a quelques commandos pour opérations terroristes ou pour opérations ponctuelles, et il a une énorme milice. Ça fait quelques centaines de personnes, ça fait 3-4 bataillons, c'est tout. Et il a une énorme milice armée, mais pauvrement armée et pauvrement combattante. Là, il y a probablement 20 000 personnes. Le piètre combattant, on l'a vu, parce que ils ont attaqué des kibbutz qui étaient presque tous de gauche, partisans de la paix, et qui ne tenaient pas en état correctement leur milice d'autodéfense. Dans 3 kibbutz, la milice s'est plus ou moins opposée à eux. Dans un cas, il y a eu des pertes des deux côtés, et 2 autres cas, c'est quand même très spectaculaire, quelques miliciens d'autodéfense ont mis en déroute, voire exterminé, les assaillants, ce qui montre leur piètre qualité militaire. Pour abattre des civils dans une rave partie et pour commettre les pires exactions, le Hamas a largement ce qu'il faut. Comme troupe combattante sérieuse, il n'a pas. Et une fois dans Gaza, les Israéliens ont commencé la tactique de faire du Haussmann, c'est ce que j'ai appelé comme ça, c'est-à-dire de détruire des couloirs entiers d'immeubles pour avoir de l'espace puis de nettoyer. Le Hamas n'a pas opposé une très forte résistance. Il n'a probablement pas eu même la question de se poser s'il pouvait le faire ou pas, s'il fallait le faire ou pas. De ces moyens qu'il a, les 3-4 bataillons, il y en avait déjà un qui a été en partie sacrifié pour prendre le point de contrôle au début de l'opération du 7 octobre ou pour tenir les centres de renseignement et de commandement israéliens le plus longtemps possible. Donc il ne lui reste pas grand-chose. Il y a 2 bataillons qui se sont battus, qui sont à peu près anéantis. Il lui en rester 1 ou 2 qu'il a repliés au sud. Et donc il n'utilise que de petits combats de retardement, soit avec ses troupes aguerries, mais soit plus probablement à partir de ceux des miliciens qui sont rendus fanatisés par le désespoir, parce qu'ils sont les parents des civils qui ont été tués dans l'opération de destruction de Gaza Nord. Et donc le Hamas s'est réfugié dans Gaza Sud, et avec la population civile, c'est là le gros problème. Pour anéantir le Hamas, et combattants du Hamas, miliciens compris, il fallait pour les Israéliens faire sortir les civils. Or, les Égyptiens ont refusé. Non seulement ont refusé aux Israéliens, mais ont refusé aux Américains, qui pourtant auraient payé cher. À ce moment-là, les Israéliens se sont retrouvés laisser la population civile dans le sud de Gaza, parce qu'ils refusent l'autre solution qui était de les accueillir chez eux, de dire aux femmes, les enfants, les vieillards viennent, passent par la réouverture du passage d'Eretz et par celui du sud, de Kerem Shalom, parce que ça aurait voulu dire non seulement gérer la logistique, mais surtout, c'est un encouragement considérable à ce qu'à terme, on soit dans l'évolution vers la solution à un État, qu'il soit confédéral ou totalement laïque, c'est pas la question, mais ça, la coalition de Netanyahou ne veut pas en entendre parler. Moyennant quoi, ne pouvant enlever l'eau, les poissons du Hamas vont se retrouver dans cette population comme des poissons dans l'eau et impossible à éradiquer. Alors, Netanyahou, après un certain nombre de trêves, finira par faire des incursions au sud. Il va essayer de tuer l'état-major du Hamas, sauf que la plus grande partie n'est pas là. Qu'aller les tuer à Doha, les Israéliens sont capables, mais c'est une opération significative qu'ils ne peuvent pas entreprendre tant qu'il y a la question des otages, parce que Doha est la plaque tournante des négociations. Et donc, le Hamas va se retrouver, continuer à contrôler la population de Gaza, alors qu'elle lui est hostile. Il faut bien se rendre compte que le Hamas est une organisation terroriste dictatoriale. Quand on entend parler de journalistes palestiniens, c'est une plaisanterie. C'est comme si on parlait des journalistes de TASS, du temps de Staline. De même que les organisations humanitaires ou de l'ONU, tout individu critique est immédiatement viré, et donc ils n'ont gardé autour d'eux que les gens qui, de gré ou de force, admettent ce qu'ils font et sont leurs compagnons de route. Donc il ne faut pas croire du tout à ce que le Hamas contrôle la population autrement que par la terreur. C'est une action terroriste non seulement vis-à-vis des Israéliens, mais vis-à-vis des Gazaouis. Et ça, malheureusement, on n'est pas parti pour l'éradiquer dans l'opération israélienne. Alors il va avoir une deuxième victoire du Hamas, c'est de maintenir la situation d'une guerre chaude ou tiède, aussi bien en Cisjordanie qu'à la frontière nord et qu'autour de Gaza, où il y aura une accalmie, mais on recommencera assez rapidement le petit jeu de tirer un missile par-ci, par-là, etc. Donc d'éradiquer l'influence politique et de détruire la puissance militaire du Hamas, c'est but sur plusieurs problèmes. Le principal étant la population de Gaza dans laquelle le Hamas va se fondre, parce qu'il n'a pas d'appareil militaire sérieux à défendre. Et donc il ne combattra pas de façon traditionnelle. Là-dessus, les Israéliens sont partis à reproduire une opération américaine qui avait marché contre l'armée de Daesh, qui aurait pu marcher ou qui pourrait marcher contre le Hezbollah au Liban, mais qui justement à Gaza est inadapté. Et tout ça révèle une autre chose, c'est que Biden veut la paix pour Noël, c'est-à-dire qu'il rentre en campagne électorale. Il a besoin que les combats, aussi bien en Israël qu'en Ukraine, soient limités, et qu'on ait sinon la fin des hostilités, du moins des situations relativement froides, pour toute la période électorale. Reste à voir si ça sera compris par les factions palestiniennes. Du point de vue des Iraniens, c'est reçu 5 sur 5. Les Iraniens ont à peu près fini de préparer leur bombe atomique. Ils auront une bombe atomique vectorisée sur missile au plus tard à l'été 2024, et ils n'ont aucune envie de se faire pulvériser leur infrastructure à la dernière minute, alors qu'ils vont bientôt être sanctuarisés. Donc eux ont tout à fait intérêt, comme Biden, à une paix relative pendant les élections américaines.
Professeur Jacoen, je vous ai demandé une photographie. J'ai l'impression qu'on a développé toute la pellicule ou presque. Vous le savez, le temps est toujours compté sur les ondes de RCF. On aura plus d'informations sur votre blog à retrouver prochainement, jhmcohen.com.
Absolument.
Merci Jacoen et à très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Vendredi 18h20, un maire qui nous parle dans ce magazine régional, Jacques Vincent, édile de Raillicourt dans les Ardennes, est avec Jean-Pierre.
Jacques Vincent, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter, assez rapidement, on aura d'autres questions, la commune de Raillicourt. Combien d'habitants à Raillicourt et où se situe Raillicourt?
Voilà, Raillicourt compte à peu près 250 habitants. C'est une petite commune, elle se situe entre Charleville et Rethel, au centre du département, sur la A34. D'ailleurs, les gens qui empruntent l'autoroute passent sur le territoire de ma commune.
Alors, il faut dire, vous êtes maire depuis longtemps,
Jacques Vincent. Je suis maire depuis 1995 et je suis membre du conseil municipal depuis 1971. Et mon élection a été assez cocasse. Parce que comme dans les petites communes, vous savez qu'il est autorisé de panacher. Et à l'époque, mon père était maire, donc j'avais des scrupules à me présenter, donc je ne voulais pas me présenter. Et puis il y avait un conseiller d'un certain âge qui avait décidé de se retirer. Il a fait le tour du village et il a dit aux habitants, je tiens à ce que vous votez pour Jacques Vincent, c'est lui qui me remplacera. Donc j'ai été élu sans être candidat. Et après, j'ai accepté le vœu des électeurs. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé donc conseiller municipal en 1971.
Alors, j'ai une petite anecdote que vous pouvez peut-être raconter. C'est que je crois Raillicourt était jumelé, en quelque sorte, ne faisait qu'une commune avec Barbès. Puis un jour, Barbès a voulu partir.
Voilà. Alors, en fait, en 1977, les deux communes ont fusionné. C'était pas un mariage d'amour. C'est parce qu'il y avait à la clé, dans la corbeille de mariée, l'adduction d'eau, parce qu'on n'avait pas à cette époque-là de distribution d'eau potable.
C'était un mariage d'intérêt.
Donc c'était un mariage d'intérêt. Donc les conseillers de Barbès et les conseillers de Raillicourt, à l'époque, à l'unanimité, ont voté pour s'associer. Et c'est parti à partir de 77, sous cette formule-là, spontanément été élu 6 conseillers de Raillicourt et 5 conseillers de Barbès, mais arrivé en 91, la préfecture a décidé qu'il fallait que comme c'était des communes associées, que ce soit proportionnel au nombre d'habitants. Donc Barbès se retrouvait avec 4 conseillers et Raillicourt 7. Ils ont pris ça pour une frustration, à juste titre finalement.
Bah oui.
Et donc c'est
ils ont demandé la séparation.
Ouais, c'est pour ça. Alors, à cette époque-là, il s'est présenté 4 conseillers à Barbès, carrément opposés à la fusion des deux communes, en souhaitant se séparer.
Alors, la séparation a eu lieu, mais la presse s'en est saisie. Il y a eu, je crois, l'Union, il y a eu France 3 à l'époque. Mais alors, c'est là que j'aimerais bien que vous racontiez votre anecdote, c'est qu'il y a une journaliste du Monde qui est venue dans les Ardennes. Et là, alors là, vous êtes tombé de votre chaise.
Ah oui, oui, oui. Alors, en fait, c'est vrai que ça passionnait les médias. Pourquoi des 6 petites communes cherchaient à se séparer, finalement? Alors, oui, comme vous avez dit, on a eu l'honneur d'avoir le journal, l'Union Lardonnais, on a eu l'honneur d'avoir FR3, et un jour s'est présentée une petite journaliste du Monde. Elle nous avait avertis, elle arrivait en taxi, emmitouflée dans les doudounes.
Ah ben elle venait dans les Ardennes, hein. Il faut prendre ses précautions dans les Ardennes.
Ben, alors elle dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, on m'a dit, dans les Ardennes, il fait extrêmement froid. Ben elle dit, vous savez, c'est pas la Sibérie, les Ardennes, c'est pas Grand Nord, c'est jamais qu'à 200 kilomètres de Paris. Ah oui, en effet, puis on sait tout.
Et ça s'est bien passé avec elle.
Très, très sympathique.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça a donné dans le journal Le Monde.
Ah ben voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que elle nous a un peu roulé dans la farine, on va dire. Bon, elle nous a posé des questions, et comme tous les médias, ils ont plutôt pris parti pour la plus petite commune, qui se plaignait d'être peu intéressé dans les décisions, soi-disant. Bon, enfin, ben, ça, c'est...
Et alors, quel était le titre de l'article?
Alors, elle a intitulé son article du Rififi à Lilliput. Elle dit comme quoi déjà les Parisiens méprisaient la campagne.
Ça vous a pas fait plaisir? Du Rififi à Lilliput entre Raillicourt et Barbès.
Ça m'a pas fait plaisir en effet, mais vous voyez, ça reste
bon,
un souvenir.
En fait, maintenant, vous en riez, hein, vous en riez, Jacques Vincent.
Alors, avec le maire de Barbès, je lui dis, tu te souviens du Rififi à Lilliput? Ben oui, je m'en souviens. Je dis, puisqu'aujourd'hui, on s'entend bien. Malgré qu'à l'époque, il disait, tu sais, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres.
Moi, c'est vrai aussi.
Ouais, du tac au tac, je réponds. Alors, oui, mais l'union fait la force.
Jacques Vincent, vous êtes toujours, le maire est toujours le patron dans sa commune, mais ce qui a beaucoup changé aussi, c'est quand même les communautés de communes. D'un autre côté, les communautés de communes, elles peuvent vous rendre service.
Ouais, elles nous rendent service, mais enfin, elles nous rendent service, c'est sûr. J'étais membre à une époque d'intercommunalité, du bureau qu'on appelle. Bon, je constate qu'il se fait beaucoup de choses en doublon. On commence déjà à faire les choses sur la commune et puis ensuite c'est entériné au niveau de la communauté de communes. On aurait pu se passer tous ces services. Mais enfin bon, c'est dans l'air du temps maintenant. Bon, c'est tout.
Alors quand même, Jacques Vincent, parce qu'on aura l'occasion de refaire une émission avec vous, vous avez beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a un ou deux projets qui sont peut-être finis ou d'autres qui sont en cours dans votre commune à Raillicourt, dans les Ardennes?
Des projets, on n'en manque pas. Ça, c'est sûr, on en a eu. On a réalisé une salle des fêtes, hein, une petite commune de 250 habitants, c'est pas toujours évident, qui peut contenir, on m'avait dit l'architecte, pour qu'elle puisse contenir au moins moitié de la population, donc 120 personnes. Forte activité associative dans le village, qui a pris hélas du plomb dans l'aile à cause de la pandémie de la...
Le Covid, bien sûr.
COVID. Mais ça a l'air de vouloir reprendre tout doucement, mais je me rends compte que ça va doucement.
On dit que, justement, à cause du Covid, il y avait des gens qui veulent acheter une maison parce que c'est un peu moins cher, beaucoup moins cher, même parfois à la campagne qu'en ville. Et est-ce que vous avez vu une ou deux personnes qui sont venues s'installer à Raillicourt?
En fait, étant à proximité de Charleville, on n'a pas trop de difficultés. On manque plutôt de terrain à bâtir, on manque plutôt d'offres qu'autre chose. Sinon, le village se développerait. Mais ce qui freine un peu aussi, c'est qu'on a une église qui est inscrite au monument historique, l'église Saint-Martin, et c'est un frein au développement. Les gens reculent parfois parce qu'il y a des restrictions imposées par l'ABF, que c'est pas toujours évident, et c'est des frais souvent supplémentaires. Les gens reculent, hein. J'ai vu des gens abandonner leur projet dans le village.
On arrive presque au terme de nos 9 minutes, Jacques Vincent. Vous avez dit la moitié de ce que vous vouliez dire.
Il y a plein de choses à dire.
Non, mais c'est parce qu'on s'est arrêté sur cette anecdote avec Barbès. Ce que je vous propose, c'est d'ici quelques temps, d'ici 3 semaines, 1 mois, on va recommencer avec vous une autre émission. Oui. On ne reparlera plus de l'anecdote. On parlera vraiment de la commune de Raillicourt. Oui. Et on vous remercie d'avoir été avec nous. Est-ce que vous êtes un maire heureux pour terminer?
Oui, il faut. Il y a un jour un conseiller m'a dit, parce que sans doute que je me plaignais, ça peut arriver, mais il me dit, si t'es maire, c'est parce que tu l'as bien voulu. Et en fait, c'est vrai, c'est parce que j'ai bien voulu, donc j'assume. Et puis je suis très heureux d'être maire. Je vois dans le village, je ne me connais pas d'ennemis, mais on ne sait pas. Je ne dis pas que j'ai que des amis, mais je ne connaîtrai pas une personne qui refuserait de me tendre la main, ça c'est clair. Hein. Mais je m'applique.
À rendre service, à participer, à être présent, proximité. Proximité.
Une force de notre petite commune, c'est le bénévolat. On a recours au bénévolat,
c'est une chance. Merci Jacques Vincent d'avoir été avec nous. On fera une émission plus longue la fois prochaine. À bientôt Jacques Vincent, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Et après cet entretien, quand la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure du journal régional sur RCF en région. Rebonjour à toutes et à tous, on est ensemble évidemment, c'est toujours moi Alexis qui suis là pour vous accompagner avec les titres de ce vendredi 24 novembre 2023. Ce week-end, la Banque Alimentaire organise sa collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Dans la Marne, les bénévoles et salariés seront présents dans plus de 80 magasins. Les étudiants en deuxième année de médecine de la faculté de Reims organisent leur traditionnelle collecte de jouets pour les enfants malades de l'hôpital américain. Première échéance ce samedi.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Franck Leroy, président de la région Grand Est, est depuis une heure maintenant en train de rencontrer les acteurs du territoire de la Marne. Il est arrivé à Sézanne peu après 17h pour la visite de la ferme des Grandes Tuileries. D'ici quelques minutes, il participera à une rencontre avec les élus du sud-ouest marnais. La Banque alimentaire appelle à la solidarité des consommateurs avec leur gilet orange. Bénévoles et salariés participent jusqu'à dimanche soir à la collecte nationale annuelle de l'association, une opération plus qu'essentielle pour Dominique Choisy, président de la Banque alimentaire de la Marne.
Plus qu'essentielle, puisque à la fois le contexte économique, celui de la raréfaction des provenances de matières premières, de leur transformation, de leur transport, ont fait que on est très 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 en retard sur les livraisons de produits qu'on attendait pour cette année. Ils nous sont encore pas parvenus. Donc, on est très démunis au niveau de l'aide alimentaire, parce que tous ces produits nous manquent aujourd'hui et on compte bien sur la collecte pour pouvoir remettre à flot nos provisions.
Dans la Marne, les bénévoles et salariés seront présents dans plus de 80 magasins partenaires. Donc,
vous allez rencontrer, en faisant vos courses, c'était pendant ce week-end, les gilets orange de la Banque alimentaire à l'entrée de 80 enseignes partenaires qui nous accueillent. Les gilets orange sont portés par environ 2000 bénévoles encore cette année qui viennent de nous rejoindre, qui viennent s'ajouter aux 100 personnes qui, à longueur de l'année, œuvre pour la distribution et la lutte contre la précarité alimentaire. Et c'est sur ces 80 enseignes que vous allez pouvoir recevoir un petit flyer qui va vous proposer de trouver des conserves cuisinées, des produits petit déjeuner, de l'hygiène pour la famille et pour les enfants, puis des pâtes et du riz qui sont tous des produits qui peuvent se conserver à terme et pouvoir être distribués tout au long de l'année.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. La demande est élevée puisque 20 000 bénéficiaires par an sont aidés par la Banque alimentaire de la Marne parmi les 2,4 millions soutenus à l'échelle nationale. Alors n'hésitez pas à participer à cette collecte pour celles et ceux qui préfèrent effectuer des dons en ligne. C'est possible également d'apporter sa contribution grâce au site monpaniersolidaire.org. Une information révélée par nos confrères de l'Union Lardonnais hier jeudi suite à une interview donné par Thomas Cazenave, ministre des Comptes Publics, la veille, mercredi donc, chez nos confrères de Sud Radio. Il a annoncé exactement qu'ils allaient confier, en parlant de eux, le gouvernement, une mission à deux grands élus locaux, Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, et Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, pour identifier combien coûte le millefeuille administratif. Selon le ministre, il existe en France trop d'empilements, des services de l'État, des opérateurs, des agences, quatre niveaux de collectivités, parfois des syndicats, des sociétés d'économie mixte. Thomas Cazenave qui a promis une opération vérité, qu'on nous dise combien ce système nous coûte et comment on peut faire des économies, parce qu'on ne peut plus se payer le luxe d'une telle désorganisation collective. Une mission qui revient donc à deux poids lourds, Marnais et Ardennais, qui ont connu récemment des désillusions politiques. Comment réduire le millefeuille administratif? Est-ce possible d'ailleurs? Les questions sont posées, les réponses arriveront bientôt. Comme chaque année, l'association des étudiants en deuxième année de médecine de la faculté de Reims, le Noël des enfants, organise sa collecte de jouets au profit des enfants malades de l'hôpital américain de Reims. Trois journées y sont dédiées cette année au magasin Smith Toys Tilloy. La première demain, samedi. Julie Nadège nous apporte quelques précisions.
Alors, c'est une distribution de cadeaux pour les enfants de l'hôpital américain de Reims. On organise également une représentation, une pièce de théâtre lors de cette distribution de cadeaux. Et on a besoin du maximum de bénévoles pour nous apporter des cadeaux lors de nos différentes récoltes dans le magasin Smith Toy à Tilloy.
On fait cet appel aux dons parce qu'on a besoin de cadeaux et pour cette récolte, nous aurons besoin de vous le 25 novembre ainsi que le 15 et 16 décembre. Les journées seront accompagnées d'activités pour les enfants. Ainsi, pendant que les parents pourront récolter les cadeaux et nous les donner, les enfants pourront se divertir avec de multiples activités telles que la pêche au canard,
un atelier maquillage et du chamboultou. Et il y aura également un Père Noël pour prendre des photos. Voilà.
Rendez-vous de 10h à 13h et de 14h à 18h demain, samedi, à Smith Toys Tilloy. Au-delà de la collecte de jouets neufs, des activités sont mises en place pour distraire les enfants, pêche au canard, chamboule tout, atelier photo avec le Père Noël, ça fait toujours plaisir, et la fanfare des étudiants en médecine pour une bonne ambiance. À rendez-vous, à prendre dès maintenant le grand show Les Indomptables du Rire vous sera présenté les mardis 5 et mercredi 6 décembre prochain au Théâtre du Chemin Vert à Reims, un événement organisé en collaboration avec les Vitrines de Reims. Chaque soir, sur scène, vous avez rendez-vous avec 4 humoristes qui mêleront humour politique et people dans un registre incisif et mordant. Les rendez-vous sportifs du week-end, parce qu'il y en a, vous sont présentés par notre stagiaire à la rédaction, Mathéo Hardy.
Football. Pour sa 13e journée de Ligue 1, le stade de Reims masculin se dirigera au stade Rennais. Le match commencera dimanche à 17h05. En Ligue 2, pour la 15e journée, Troyes ira à Guingamp samedi à 19h. L'équipe féminine de Reims jouera sa 9e journée de D1-Arkema contre le Paris FC dimanche à 14h30. Basket. En Pro B, Chalon-Reims disputera la 8e journée contre Antibes ce soir à 20h30. Pour sa 8e journée de LFB, Charleville-Mézières se dressera devant Montpellier dimanche à 16h au gymnase de Marcel. Cerdan. Volley, Chaumont jouera à 19h pour la 8e journée de Marmara Spike League à l'espace Omnisport de Plessis-Robinson.
Et on ajoute à rendez-vous votre émission Totalement Sport, le Sportiplex, c'est samedi de 19h30 à 22h sur RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardenne. Une information complémentaire qui a permis à Mathéo de reprendre son souffle. Tout de suite, sa dernière météo. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir.
La météo, c'est avec vous. Quel temps fait-il en Champagne-Ardenne pour ce week-end ?
Alors pour ce week-end, samedi dans les Ardennes, attendez-vous à un temps plutôt nuageux le matin et quelques éclaircies l'après-midi. Le matin, il fera 5 degrés à Rethel et l'après-midi, 6 degrés à Charleville et Sedan. Dans la Marne, il y aura un beau soleil du matin au soir. Le matin, 5 degrés à Reims et Épernay et à partir de midi, 7 degrés à Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François. Dans l'aube, un très beau soleil se prépare, mais les températures restent basses, alors ne vous fiez pas aux apparences, couvrez-vous bien. Le matin, il fait 4 degrés à Reims et l'après-midi, 7 degrés à Romilly-sur-Seine. En revanche, en Haute-Marne, prévoyez un parapluie car des averses se préparent. Il fera 2 degrés à Langres le matin et 6 degrés l'après-midi. Pour dimanche, dans les Ardennes, attendez-vous à une dépression qui s'annonce avec un temps très nuageux et quelques averses. Le matin, il y aura 5 degrés à Rethel et Sedan. L'après-midi, il fera 6 degrés à Charleville. Dans la Marne, il y aura quelques rayons de soleil le matin, mais les nuages vont vite reprendre le dessus. 5 degrés sont attendus le matin à Reims et Vitry-le-François. L'après-midi, on aura 7 degrés à Châlons-en-Champagne et Épernay. Dans l'aube, le mercure stagne avec le matin 3 degrés à Romilly-sur-Seine et l'après-midi 6 degrés à Troyes. En Haute-Marne, le temps est similaire à celui de la Marne, avec le matin 2 degrés à Chaumont et l'après-midi 3 degrés à Langres. Samedi, nous fêterons les Catherines et dimanche, les Delphines.
Merci Mathéo, c'était aujourd'hui votre dernier jour de stage, même si vous êtes avec nous jusqu'à 19h. C'est maintenant que l'on vous remercie pour toute cette semaine passée à nos côtés. Et puis merci pour votre investissement tout au long de ces 5 jours.
Merci de m'avoir accueilli pour cette semaine, ça m'a fait plaisir.
Et ça nous a fait plaisir aussi Mathéo. Le 18-19 en Champagne continue, tout de suite on parle du radiodon sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Avec nous dans les studios de RCF Reims-Ardennes, on a le plaisir de recevoir Bruno Maes en cette période de Radiodon. Bruno Maes, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît pour vos qualités d'historien, on vous connaît peut-être aussi sur les antennes de RCF pour votre fidélité et votre générosité, puisque vous êtes un auditeur, bien au-delà de ça, un donateur également de la radio RCF. C'est pour ça que vous êtes avec nous en cette période de Radiodon. Bruno Maes, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'écoute des programmes de RCF ?
Eh bien, je dirais que j'ai toujours écouté des radios chrétiennes. Quand j'étais étudiant en Paris en 1988, j'écoutais Radio Notre-Dame. Et quand Mgr Balland a fait venir Radio Fourvière à Reims, j'étais aussi très content de voir que dans notre ville, une radio chrétienne existait. Et j'aime beaucoup aussi RCF parce que dans RCF, il n'y a pas Notre-Dame, mais c'est chrétienne. Chrétienne, c'est donc à la fois catholique et protestant. Et j'aime beaucoup les frères protestants quand il y a le commentaire de l'évangile du matin. J'aime beaucoup ce dialogue entre catholiques et protestants. Le matin, j'aime beaucoup la radio également parce que, par ailleurs, les émissions sont de tonalités très différentes. Il y a à la fois des émissions historiques, il y a des commentaires de l'évangile du matin, il y a des émissions à la fois locales, comme celle à laquelle vous préparez, les émissions nationales. Et puis, il y a aussi Radio Vatican, et je suis très content d'écouter aussi Radio Vatican par RCF.
On a bien compris, Bruno Maes, que vous êtes un auditeur régulier de la radio RCF et que vous, ce qui vous plaît particulièrement, c'est à la fois ses commentaires sur la foi, la spiritualité, mais aussi la synergie entre des informations à l'échelle nationale, internationale et à l'échelle locale.
Oui, tout à fait. Je crois que je suis assez ouvert sur le monde. Et donc, à la fois la spiritualité, les informations, donc c'est des choses qui me plaisent beaucoup.
On l'a dit d'entrée, au-delà d'être un auditeur régulier de la station RCF France-Ardenne, vous êtes aussi un donateur. Pourquoi ça vous semble important pour vous de soutenir RCF, Bruno Maes ?
Eh bien parce que je crois que beaucoup de gens écoutent RCF et qu'il n'y a que 10% des auditeurs qui donnent.
C'est ce que l'on dit, un auditeur sur 10.
Oui, donc je sais que beaucoup de personnes écoutent RCF autour de moi, même des personnes qui sont loin de l'église et qui l'écoutent parce que justement dans RCF on parle aussi des domaines plus sociaux je dirais.
Eh bien en tout cas un grand merci Bruno Maes d'être un fidèle auditeur, on vous remercie également pour votre générosité d'être un fidèle donateur et puis d'être quelque part un ambassadeur de la radio comme vous le faites en étant présent avec nous à l'occasion de ce radiodon et puis en parlant autour de vous, c'est aussi ça être généreux envers la radio RCF. Un grand merci Bruno Maes et à très bientôt.
Je vous en prie, à bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
La suite de ce magazine régional pour la vingtaine de minutes qu'il nous reste à passer ensemble ce vendredi, un rendez-vous incontournable pour les férus de cirque, le nouveau spectacle de fin d'études et l'occasion de découvrir les artistes de cirque fraîchement diplômés du CNAC, le Centre National des Arts du Cirque, du 29 novembre au 10 décembre au Cirque Historique de Châlons-en-Champagne. Pour nous en parler, Claire Rossi, directrice communication au CNAC de Châlons-en-Champagne, est avec Christopher Fausten.
Bonjour Claire Rossi.
Bonjour Christopher.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans les studios de RCF Cœur de Champagne pour parler de l'actualité du CNAC du côté de Châlons-en-Champagne, hein, cette ville circassienne qu'on connaît très très bien dans notre territoire Champagne-Ardenne. C'est l'occasion de présenter ces différentes actualités, ces différents rendez-vous que le CNAC propose dans les prochaines semaines, notamment ce rendez-vous eh bien, de la 35e promotion du CNAC qui va faire plusieurs représentations. On peut le dire, Claire Rossi, dans un premier temps avant de rentrer sur cette 35e et ces différents spectacles qui vont se dérouler dans les prochains jours, que ça reste toujours un rendez-vous, on peut dire, incontournable pour le CNAC de faire ces spectacles avec les étudiants de la 4e année.
Oui, c'est un rendez-vous qu'on retrouve chaque année. C'est bien, donc c'est les 4e années que l'on retrouve. Après les avoir découverts pendant les échappées au mois de juin, on les retrouve pour ce spectacle dont le titre est « Parce qu'on a toutes besoin d'un peu d'espoir ». Ce spectacle jouera du 29 novembre au 10 décembre au Cirque Historique à Châlons-en-Champagne. C'est un moment fort parce que c'est à la fois le spectacle de dernière année, ce qu'on appelle le spectacle de fin d'études, et c'est aussi un spectacle qui est la marque de leur passage vers le monde professionnel.
On peut dire que c'est aussi de confirmer un petit peu ce qu'ils ont appris pendant toutes ces dernières années au CNAC, avec des spectacles grand public. Alors même s'ils ont déjà réalisé des spectacles au grand public avec les échappées il y a quelques mois, voilà, on arrive sur la dernière ligne droite avec de nouvelles représentations. C'est quelque chose de très important pour les étudiants du CNAC.
Oui, c'est important parce que c'est à la fois un moment qui clôt trois années et demie d'études.
Oui.
que pendant les échappées, en fait, ils ont présenté des numéros qui étaient plus personnel. Là, c'est une création collective qui est faite avec la metteuse en scène Sophia Pérez de la compagnie Cabas. C'est 3 mois de création au Cirque Historique et c'est aussi un spectacle qu'on retrouvera à la Villette en janvier.
D'accord.
Donc un spectacle qu'on retrouvera aussi dans d'autres villes courant 2024.
Quand on parle de la 35e promotion, qui est cette 35e promotion concrètement, Claire Rossi ?
Alors, cette 35e promotion, elle est composée de 12 interprètes, 12 futurs artistes. On retrouve dans les agrès du trapèze, du cerceau, du jonglage, du machinois, de l'acrodance, des équilibres, de la roussire. Il y a un nouvel agrès que vous pouvez découvrir pendant ce spectacle qui s'appelle une plateforme. Les étudiants, c'est Thomas Botticelli, Sonny Crowden, Isaline Hujonet, Carlotta Lesage, Yuyin Lin, Faustine Morvan, Mats Otterveld, Antonia Salcedo Delahaut, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir d'écorcher un peu leur prénom, Cassandra Chopper, Nina Sugno, Mathis Walzak et Anouk Weisberg.
donc cette 35e promotion qui vont réaliser plusieurs représentations du 29 novembre au 10 décembre. Comment justement se passe la programmation et la réservation de ces différents spectacles?
Alors pour réserver, on peut se rendre directement sur le site du CNAC, donc cnac.fr, ou on peut aussi nous envoyer un mail sur billetterie@cnac.fr pour réserver les places.
Donc plusieurs représentations auront lieu dans les prochains jours, ça approche, c'est la semaine prochaine du côté du CNAC. Et puis on peut déjà dire que dans les prochains mois, on retrouvera les nouveaux échappés de la troisième année. On pourra le dire,
en juin 2024.
Comme
chaque année. Et aussi, une nouveauté au CNAC, tous les mois, on a un rendez-vous avec les étudiants. On propose un rendez-vous avec les étudiants en entrée libre. Donc, à partir de février, on pourra commencer à découvrir des premiers travaux qui seront présentés aux échappés.
Alors, c'est-à-dire, les rendez-vous avec les étudiants, les étudiants partagent un petit peu ce qu'ils font?
Exactement. En fait, on a une volonté de proposer au public de découvrir ce qui se passe peu en entre nos murs et surtout de laisser la possibilité aux étudiants de rencontrer le public et pas attendre la fin des trois années. Donc chaque mois, on a un petit temps, il y a un temps de création et à la suite de ce temps de création, on a un temps de présentation en public. Donc ce sont des petites formes, c'est pas un spectacle en soi. En tout cas, c'est des petites formes qu'on ouvre au public, donc avec des jauges très limitées, en général c'est entre 50 et 100 personnes. Et à chaque fois, c'est des présentations, les étudiants testent des choses. À la fin de ces représentations, il y a toujours un échange avec le public sur qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont compris. Et c'est à chaque fois c'est plutôt enrichissant.
C'est aussi l'occasion pour vous, entre guillemets, alors même si c'est pas officiel, c'est un peu des portes ouvertes aussi pour vous, parce que ça peut permettre au grand public et peut-être à des futurs étudiants de découvrir un petit peu le monde artistique, l'univers du CNAC et pourquoi pas, j'avais dit recruter, non, mais inviter les futurs étudiants à rejoindre cet univers. C'est un petit peu l'occasion aussi, Claire, aussi?
Oui, ça peut être l'occasion. En tout cas, c'est aussi une volonté de toute l'équipe du CNAC d'ouvrir les portes de l'école, enfin en tout cas du Centre National. On nous a longtemps reproché que les portes étaient fermées, qu'on n'ouvrait pas au public. Là, vraiment, l'idée, c'est de faire découvrir un petit peu l'univers et tout ce qui s'y passe. Et oui, ça peut sûrement susciter des vocations et ça peut aussi montrer quelle est l'essence de l'enseignement qu'on peut proposer au CNAC.
Alors, les prochains rendez-vous avec les étudiants, ce sera courant décembre. Ce sera précisément le 19 et 20 décembre à 18h aussi. Cirque historique sur le thème de la carte blanche, c'est bien ça?
Oui, on propose une carte blanche aux trois promotions.
D'accord.
Donc, on a un rendez-vous chaque mois et à chaque fois, ça concerne une seule promotion. Là, on a proposé aux trois promotions de faire une carte blanche. Donc, pour le moment, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. C'est vraiment une surprise. Malheureusement, le 20, déjà, tout est complet.
Oui, déjà, il reste plus que le 19.
Plus que le 19, voilà.
Alors, il faut se connecter sur le site du CNAC.fr pour avoir plus de renseignements sur ces prochains rendez-vous avec les étudiants. Claire Rossi, avec nous aujourd'hui sur RCF, directrice de communication au CNAC de Châles-en-Champagne, Centre National des Arts du Cirque. Il nous reste encore un petit peu de temps pour parler de ce passe-cirque que vous avez lancé il y a quelques années de cela, un passe qui permet justement au grand public d'accéder assez facilement et peut-être... assez facilement à ces différents rendez-vous dans le domaine du cirque, dans le domaine des arts du cirque.
Oui, alors le passe-cirque, en fait, c'est une volonté de la Comète, du Palc et du CNAC de proposer au public trois spectacles pour la somme de 30 euros.
Oui.
Donc en décembre, on a toutes les trois structures, ont une actualité cirque.
Oui.
Donc
il y a un grand programme.
Il y a un grand programme. Donc
c'est l'occasion.
Exactement. Donc on peut découvrir le spectacle Les Fauves de la compagnie EAEO. On peut aussi découvrir le spectacle Nos matins intérieurs du collectif Petit Travers et du Quatuor de Debussy, et aussi donc le spectacle de fin d'études du CNAC. Donc pour la somme de 30 euros, ça fait 10 euros par spectacle. Je fais pas le marché, mais en tout cas, c'est une belle occasion de découvrir trois propositions cirque différentes et de grande qualité.
Dans cette belle ville circassienne qui est Châlons-Champagne, merci beaucoup Claire Rossi d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, directrice de communication au CNAC de Châlons-Champagne. On vous souhaite une belle saison avec tout ce programme très riche, l'actualité qui est très très riche du côté du CNAC. Et on vous dit à très bientôt sur RCF.
À très bientôt, merci.
Merci Claire Rossi et Christopher depuis Châlons. À noter qu'il est possible de se procurer directement le pass cirque auprès de la billetterie de La Comète Scène Nationale au 5 rue des Fripiers, c'est à Châlons en Champagne.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Toujours ensemble sur RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, une fois n'est pas coutume, c'est avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, que l'on termine cette émission. On le retrouve en alternance, une fois tous les 15 jours, avec Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse. L'entretien, c'était ce matin sur RCF Reims-Ardennes avec Jean-Pierre.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous.
En direct dans le studio de Reims, ce matin, on vient d'entendre dans le flash quelques informations à propos d'Israël et de la bande de Gaza, avec des otages peut-être libérés aujourd'hui. Quel est votre sentiment, votre réaction ?
Ben, je partage, je pense comme beaucoup, l'inquiétude sans doute et l'attente des familles. Certaines vont voir revenir un des leurs, dans quel état, et puis certaines ne vont pas le voir revenir. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'extrêmement angoissant et douloureux. Et en même temps, si je pense aux habitants de la bande de Gaza, bien, ils vont être pendant 4 jours préservés d'attaques militaires, de bombardements. Aussi, mais après, que va-t-il se passer ensuite ? Donc, pourvu que cette trêve puisse déboucher sur un véritable cessez-le-feu et que tous les otages soient libérés sans tarder.
On aura bien sûr l'occasion d'en reparler.
Oui, on pourra parler d'autant plus que dimanche, il y a en tout cas pour moi, je participerai ici à Reims à une rencontre avec le grand rabbin de France, Raïm Korsia, bien connu ici à Reims, dans le cadre des amitiés judéo-chrétiennes qui organisent un après-midi au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, rue de Contray. Donc, ce sera pour moi l'occasion aussi de rencontrer une partie au moins de la communauté juive à Reims et de leur exprimer mon amitié dans ces temps difficiles qu'ils vivent. Voilà, en même temps que nous avons beaucoup de relations avec des gens qui sont à Gaza, beaucoup de pèlerins qui devaient aller en Terre Sainte ou qui vont en Jordanie entendre parler de la situation concrète des familles. Donc il y a beaucoup de douleur, beaucoup de destruction, beaucoup de colère de toutes sortes de côtés, beaucoup de peur et d'inquiétude. Et nous vivons donc à un moment compliqué de la vie du monde et de cette partie-là du monde qui en même temps est tellement importante pour l'humanité entière.
Oui, vous connaissez bien la région, vous êtes allé souvent.
Bien, je dirais pas ça, je connais un peu, j'y suis allé de temps en temps, moins que beaucoup d'autres. Mais c'est un point vraiment focal du monde, et puis spirituellement, pour nous évidemment, c'est la terre sainte, en apprenant au sens très très large, c'est la terre de l'Alliance, et il faudrait que ce soit une terre de paix.
Monseigneur, on en reparlera. Dans l'actualité cette semaine, nous avons appris mardi la nomination de Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons, comme évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. C'est un départ. Vous êtes aussi responsable de la province avec les évêques et puis président de la conférence des évêques. Comment vivez-vous ces départs, ces changements ?
Écoutez, moi j'admire Monseigneur Touvet qui a accepté une charge qui n'est pas faite très, très simple. Parce qu'être coadjuteur pendant plusieurs années, c'est pas forcément facile. Donc le coadjuteur vient aider un évêque. Il y en a besoin visiblement à Toulon. Moi, je ne connais pas forcément très bien toute la situation. Monseigneur Touvet part avec générosité. Je le connais comme tel. Il est généreux, courageux. Pour moi, c'était un très bon voisin, je dois dire, un frère très très appréciable, très très loyal, toujours très aussi très plein de projets, d'entrain, de sagesse. Le diocèse de Châlons, comme le nôtre, est assez fragile, connaît des difficultés. Il s'y passe des belles choses, mais en même temps, les forces sont limitées. Et François Touvet a toujours été très actif et a toujours cherché des voies d'espérance. Hein. C'était son un peu la thématique qu'il avait donnée au diocèse, je sais, c'est pèlerin ou témoin
pèlerin d'espérance. À la recherche d'oasis, disait-il.
Voilà, en essayant de créer des oasis un peu partout. Et je trouve qu'il y avait un beau projet. Et je souhaite au diocèse de Chalon beaucoup de force et de courage pour continuer à vivre dans ce projet en attendant qu'un nouvel évêque arrive.
Ça peut prendre du temps d'ailleurs.
Peut prendre du temps parce que effectivement il faut le trouver, il faut un petit peu de temps dans tout ça. Mais on va essayer d'aider pour que ça soit le moins long possible.
Monseigneur, tout récemment, vous avez participé avec la mission Coteau, Maison et Cave de Champagne à une rencontre qui visait à collecter des dons, parce que avec cette mission, on a proposé la restauration de la basilique Saint-Remi. Et ça, c'est un gros, comme on dit entre guillemets, un gros morceau, parce que ça coûte assez cher.
Tout à fait. Alors, notre région a la chance d'être classée deux fois à l'UNESCO, là, la première pour la cathédrale et Saint-Remi, et puis la seconde, donc, au titre des coteaux, maisons et caves de Champagne, donc, qui est tout un ensemble qui comporte tous les villages, les paysages, etc. Et donc la mission coteau, cave et maison de Champagne est chargée de veiller à ce que la région mérite toujours ce classement, soit à la hauteur de ce classement. Voilà, et donc elle organise chaque année apparemment un dîner de gala. Pour ma part, c'est la première fois que j'étais invité à la table de la mairie. Et je suis allé parce que ça concernait la basilique Saint-Remi. Je suis très reconnaissant aux organisateurs et à tous ceux qui ont participé à ce dîner aussi. De soutenir ainsi la remise en état de la basilique, qui est quand même un des beaux, vraiment très beaux bâtiments de notre ville et notre région, et dont l'importance dépasse notre simple région, ça concerne le monde entier. Et donc il faut qu'elle soit à la hauteur de ce que quelqu'un qui vient peut attendre. Et il y a beaucoup de travaux, y compris des travaux de toiture qui est à reprendre. La ville est très engagée, mais a besoin de l'aide et de l'État et de tous.
Puisqu'on parle, alors c'est des sommes assez colossales, hein, on parle de 60 millions d'euros.
Je crois volontiers. Il y a,
très important.
Il y a beaucoup de travaux à faire, il y a des vitraux à reprendre. Et là, il y a un beau chantier aussi, parce que nous avons la chance à Saint-Remi d'avoir quelques vitraux historiques.
Alors, puisqu'on évoque justement ces recherches d'argent, RCF organise cette semaine, et nous sommes à la fin de la semaine, l'opération Radiodon. C'est important pour RCF, et ça allège aussi, parce que le diocèse aide beaucoup RCF, une contribution importante, et les donateurs aident les diocèses.
Tout à fait, mais RCF est un formidable outil, je dois dire, pour un diocèse comme le nôtre, hein, il arrive à rejoindre des gens qui sont isolés, il faut bien le dire, et auprès duquel même notre structure diocésaine n'arrive pas à assurer une proximité très, très grande. Donc, moi, je suis très reconnaissant à RCF, j'en profite pour remercier les équipes, vous, Jean-Pierre, Alexis, Thierry, Fabrice, et puis tous les bénévoles qui vous aident d'une manière ou d'une autre en organisant un programme ou bien en venant ici vous aider à préparer une émission, accueillir les gens, répondre au téléphone, etc. Donc grâce à toute cette grande famille RCF, eh bien, il y a beaucoup de vie sur votre antenne et beaucoup de vie locale. Et c'est une grande chance pour nous. Donc merci vraiment à tous ceux qui soutiendront ce Radio Don, parce que de fait c'est ce qui vous permet de faire des projets et d'envisager l'avenir avec dynamisme.
Et d'ailleurs, on s'en souvient, on a eu des réactions de donateurs ces jours-ci, et il y en a plusieurs qui ont encore, et je ne veux pas regarder dans le rétroviseur, manifesté un merci pour l'aide apportée au moment de Covid. On a enclenché une méditation. Alors en ce moment, le soir, c'est pas toujours évident, mais on va essayer de faire qu'elle se maintienne, un encouragement de toutes ces personnes. C'était un nouveau départ, hein,
oui,
cette période.
Oui, j'ai l'impression, et y compris dans la perception que nous, le diocèse, et puis les personnes qui travaillent avec moi, ont eu d'RCF, parce que vous avez généreusement ouvert vos antennes à toutes sortes d'émissions aussi portées par un certain nombre de services diocésains. Et nous en sommes très reconnaissants.
On vous retrouve dans une quinzaine de jours. D'ici là, il nous reste 20 secondes, hein, Monseigneur. Vous allez 2-3 jours à Malte?
Oui, je vais à Malte à une réunion des présidents de conférences épiscopales en Europe, et j'en profite pour dire que Mgr Vetteux, lui, sera aussi à Rome pour une réunion de la Commission théologique internationale à laquelle il participe. Donc, nous porterons le diocèse dans notre prière.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, merci Jean-Pierre, on vous retrouve la semaine prochaine dès lundi 18h10 avec un nouveau magazine régional. Vos programmes locaux continuent de vous accompagner tout au long du week-end avant de refermer ce magazine ce soir, même si vous allez encore en entendre parler évidemment avec l'antenne nationale de RCF et dans nos programmes locaux. Cette semaine, vous le savez, était une semaine très spéciale pour nous, la semaine du Radiodon, une semaine où on fait appel à votre générosité, à votre soutien, et on aimerait vous dire un grand merci pour tout ce que vous nous apportez, un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour votre générosité, votre soutien compte énormément pour nous. Sans vous, rien n'est possible. Sur ce, une très bonne soirée. Dans quelques instants, l'information nationale.